Eh bien, bienvenue. J'aimerais aborder ce soir avec vous quelque chose qui rejoint un petit peu l'actualité, ou de manière très large comme ça. C'est un regard un petit peu sur l'histoire et sur le temps que nous vivons. On est matraqué de tous les côtés par des nouvelles, des annonces, le téléjournal. À la fin, je ne sais pas si on dit toujours, à l'époque, dans ma jeunesse, on disait « telle est à notre connaissance l'actualité à ce jour en Suisse et dans le monde ». Vous aviez 25 minutes, vous résumiez l'histoire de la Terre en 25 minutes, avec trois flashs, deux, trois images télévisées, et on vous dit « ça, c'est ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui ». Ah ben merci beaucoup alors, pas passé grand-chose, hein, une sélection complètement subjective. Et alors on croit qu'avec ça, on a compris l'histoire de notre temps. Et donc, ce qui nous manque, je crois, aujourd'hui, c'est une sorte de regard, de perspective, ce qu'on appelait avant une philosophie de l'histoire, une théologie de l'histoire, un sens de l'histoire. Ce sens de l'histoire, pour nous, part d'une création de Dieu, par amour, d'une chute, le péché originel, d'une rédemption, le Christ qui vient comme axe de l'histoire, comme charnière de cette histoire, racheter l'humanité, la délivrer de la mort et du péché, la ramener vers le Père, et puis ce temps de la fin des temps dont parle Saint Paul, ce temps de l'attente, ce temps de la patience, dira Saint Pierre, qui nous conduit dans l'attente de la venue en gloire du Christ, l'eschatologie, la fin des temps, et ce qui est le temps de la conversion, le temps du combat spirituel aussi. Voilà. Mais j'aimerais relever, alors donc ça c'est la grande perspective de l'histoire, et les événements se situent dans cette perspective-là. Voyez-vous, tout ce que l'on va vivre va être inscrit dans cette perspective-là. Et alors, Saint Paul dira, ne nous trompons pas, nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des principautés et des puissances des ténèbres qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Donc il y a un véritable combat spirituel qui se joue à travers différentes manifestations, à travers différentes réalités. Et puis une deuxième chose qui pour nous est capitale, c'est cette phrase dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils, son unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour fou qui provoque l'incarnation, qui poussera Dieu à venir faire miséricorde à l'humanité, rechercher l'humanité au tréfonds de sa misère, porter sur ses épaules, le Christ portera sur ses épaules le poids du péché du monde pour nous en délivrer, ça c'est l'amour qui poussera. Jésus dit à Catherine de Sienne un jour, c'est pas les clous qui me tiennent en croix, c'est l'amour qui me tient en croix. Et ça, c'est la lecture, un Dieu qui vient racheter l'humanité, rechercher l'humanité, et donc qui nous interpelle pour accueillir cet amour. Alors, j'aimerais voir un petit peu, si vous voulez, par rapport à cette histoire, par rapport à cette perspective, rapidement rappeler ici, quelles sont peut-être cinq tentations de notre culture actuelle, cinq points qui, finalement, marquent profondément notre culture actuelle, et comment il nous appartient à nous, chrétiens, d'apporter une réponse crédible à ce monde, à nos frères et sœurs en humanité qui souffrent et qui peinent parce que ils sont, j'allais dire, un peu comme Obélix tombés dedans quand ils étaient petits. Alors on se rend plus compte, vous savez, hein, il veut toujours prendre la potion magique, mais c'est pas possible puisqu'il en a, il est tombé dedans quand il était petit. Hein, et finalement, on est un petit peu comme ça, on tombe dans une culture, on tombe dans un monde, et pour finir, ça devient comme une sorte de bain dans lequel on se meut sans se rendre compte véritablement à quel point on en est imbibé. Et donc on a toujours de la peine à prendre la distance par rapport à la culture dans laquelle nous sommes. Je sais plus qui disait un jour une chose intéressante, il dit, dans une époque particulière et troublée, quand quelqu'un annonce et dénonce peut-être les maux de cette époque, il passe pour un fou, et 20 ans plus tard on se dit, mais comment a-t-on été assez fou pour se laisser berner à ce point, hein? C'est-à-dire que les prophètes sont toujours des fous à un moment donné, mais de la vraie folie qui rappelle peut-être l'exigence de la vérité dans le temps dans lequel nous vivons. Alors peut-être la première tentation ou le premier impact culturel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais, à la suite de Jean-Romain Putalan, la dérive émotionnelle. Une culture profondément marquée par l'émotionnalité, culture où l'on vit à l'épiderme de soi-même, où l'on vit dans la sensibilité essentiellement, non pas que l'émotion soit mauvaise, bien au contraire, elle fait partie de notre nature humaine, et si Dieu l'a donnée, il faudra bien la respecter, mais lorsqu'elle devient critère de jugement, critère d'expérience humaine, critère de vie, unique critère de vie, alors là, elle est comme une sorte de prison. C'est intéressant de voir que c'est pas par hasard que cela est arrivé, voyez-vous. Hein, quand au XVIIIe siècle, on a voulu revendiquer l'autonomie de l'homme par rapport à Dieu, qu'on a revendiqué l'indépendance de l'homme. On voulait bien d'un Dieu créateur qui lancerait la chiquenaude initiale de l'univers, mais ensuite qui se croise les bras et qui regarde un petit peu comme...